autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, pour cette deuxième semaine de rediffusion estivale consacrée aux grandes voies disparues de la recherche. Aujourd'hui, le professeur Ogbahra Dumbo, figure mondiale de la lutte contre le paludisme, cet enfant de la brousse, comme il aimait le rappeler, était l'un des seuls chercheurs africains en biomédecine reconnus internationalement. Et pour cause, lauréat des plus prestigieux prix scientifiques, Ogo, comme l'appelaient ses confrères et consoeurs, a été un précurseur, un visionnaire qui a réussi à faire de la lutte contre le paludisme une véritable question d'éthique et de solidarité internationale. Brutalement disparu en juin 2018, Ogbahra Dumbo avait une conviction, je le cite, « Si on veut vraiment combattre le paludisme, il faut revenir dans les villages ». C'est ce qu'il avait choisi de faire au Mali avec l'entomologiste Yaya Touré en fondant le premier centre de recherche et de formation sur le paludisme, le MRTC, une plateforme d'excellence en réseau avec des villages sentinelles qui depuis a essaimé sur tout le continent, prouvant ainsi qu'une recherche de pointe en santé, en lien direct avec les besoins des populations, était et est possible en Afrique. Nous vous proposons d'écouter ou de réécouter ceux et celles qui poursuivent aujourd'hui sur le continent cette aventure scientifique et humaine à l'occasion de l'hommage qui lui a été rendu à l'Académie des sciences à Paris. C'est en avril 2019. Le comité pour les pays en développement de l'Académie des sciences avait organisé très précisément le 11 avril 2019 un colloque en hommage à Ogbahra Dumbo auquel ont participé entre autres nos invités la présidente de la Société ouest-africaine de parasitologie Dorothée Kindé-Gazar, le parasite Oumar Gaye de l'université Cheikh Diop de Dakar et le professeur Achille Massou-Bodji de l'université d'Abomey Kalawi au Bénin. Nous étions également en ligne par téléphone avec Francine Toumi, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville, et Abdoulaye Djimdé, l'actuel directeur du MRTC, le Malaria Research and Training Center de Bamako, fondé donc par les professeurs Ogbahra Dumbo et Yaya Touré. Autour de la question comment rendre hommage au professeur Ogbahra Dumbo, et si on commençait par écouter ou réécouter le regretté professeur Ogbahra Dumbo.
Avec mon collègue le professeur Yaya Touré, donc moi médecin parasitologue, Yaya entomologiste, nous nous sommes retrouvés en 90 autour de M. Rank et nous avons dit qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la science et l'innovation technologique dans notre pays. Et pour le faire, très vite, nous avons eu la vision d'investir sur la nouvelle génération. Et en prêtant un serment, j'ai dit à Yaya, il faut que tous les deux, nous prêtions le serment de ne pas quitter le Mali sans réaliser ça. Parce qu'il y avait des opportunités pour des jeunes formés africains d'aller à l'OMS, à la Banque mondiale, à l'USAID, à l'UNICEF. Mais il ne fallait pas céder à cette tentation. Mais il ne fallait pas aussi être seul. Donc avec le couple de parasitologues et d'entomologistes, on pouvait former une équipe pour gagner. Nous sommes des gens qui aimons le défi. Donc on voulait relever le défi que c'est possible de vivre heureux dans son pays, s'épanouir en faisant la science, de nourrir sa famille et d'attirer la nouvelle génération. Voilà un peu ce qui a guidé notre présence permanente au Mali sans émigrer ailleurs.
C'est un des points communs à tous nos invités ici présents. Vous avez tous et toutes relevé ce défi de mener vos recherches de pointe sur le continent, suivant l'exemple du regretté professeur Ogo. Bonjour Dorothée Kindé-Gazar.
Bonjour.
Bonjour Achille Massou-Bodji.
Bonjour madame.
Bonjour Oumar Gaye.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous à la veille de cette journée d'hommage et de colloque à l'Académie des sciences sur les maladies parasitaires. Professeur Dorothée Kindé-Gazar, vous avez été ministre de la Santé du Bénin. Vous êtes actuellement président de la Société ouest-africaine de parasitologie à l'Université d'Abomey Kalawi. Vous vous sentez héritière de cet engagement-là du professeur Ogbahra Dumbo. Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Je vous remercie déjà de m'inviter à ce colloque, surtout l'Académie française qui a voulu rendre hommage au professeur Ogbahra.
C'est un signe.
Qui pour nous est un homme de vision. Un homme de vision parce qu'il a voulu bâtir à partir de son pays et émerger ensuite vers tout le continent africain. Le professeur Ogbara, pour moi, est un homme pour qui, et je le disais déjà dans mon oraison funèbre, aucune montagne n'est impossible à grimper. Mm-hmm. Pour le professeur Ogbara, il faut se fixer des objectifs et se donner les moyens de l'atteindre. Et c'est ce qu'il a fait. Et je voudrais retenir que c'est un homme de terrain. Pour combattre le paludisme, par exemple, il faut atteindre les cibles. Où se trouvent les cibles, sinon dans nos villages, nos enfants, les femmes enceintes. Donc, il fallait être sur le terrain. Et on ne pouvait pas non plus faire de la recherche en restant uniquement au laboratoire. Donc, on est descendu sur le terrain et il a prouvé que nous devons prendre nos responsabilités en Afrique en tant que chercheurs parce que les maladies parasitaires sévissent en priorité dans nos pays et nous devons être là, nous Africains, pour mener cette lutte.
C'est ce que vous faites ici, ce que vous faites, professeur Oumar Gaye, vous êtes parasitologue, chef du service de parasitologie médicale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous présidez le comité de recherche pour la lutte anti-paludisme au Sénégal. Vous êtes conseiller également pour de nombreux organismes internationaux. Vous partagez vous aussi cette vision du professeur Ogbara Doumbo, cet engagement à mener vos recherches, à former de jeunes scientifiques africains de haut niveau sur le continent?
Merci. Donc peut-être juste rectifier, je ne suis plus le chef de service de parasitologie.
Pardon.
Mais
vous êtes toujours parasitologue.
Mais je suis toujours parasito et je suis toujours à l'université Cheikh Anta Diop.
D'accord.
Où je coordonne plusieurs programmes de recherche donc en cours. Le professeur Ogbara, je peux dire, c'est un ami. C'est vraiment un ami avec qui nous avons partagé la passion pour la recherche et la passion pour la formation. Donc, nous l'avons connu il y a plusieurs années déjà, donc c'était déjà en 1988. Et je pense que dès le premier contact, complicité s'est mise en place. Et durant tout notre parcours de scientifique, nous avons eu à partager et à défendre des positions extrêmement fortes auprès de l'OMS, mais également auprès des partenaires au développement. Et quelque part, avec tous les collègues autour de cette table et d'autres, je pense que c'est ce combat qu'on a toujours voulu mener, former des jeunes scientifiques en Afrique pour que plus tard, ils puissent prendre le relais. Et je pense que de ce côté-là, Ogo a réussi.
Ogo a réussi et Ogo a réussi aussi à se faire entendre, effectivement, à la fois par l'OMS, par les fondations, par les plus éminents chercheurs de par le monde et par les villageois.
Tout à fait. Je pense que ceci est important. Que les évidences scientifiques que nous produisons puissent avoir un impact réel auprès des décideurs. Et c'est un combat important et c'est le type de combat qu'il faut mener pour amener les autorités, les décideurs politiques et également nos responsables politiques à entendre la voix des chercheurs.
Que vous soyez entendu, hein. C'est pour ça qu'on est content de vous recevoir sur nos ondes et de rendre cet hommage au professeur Ogo. Alors, vous-même, professeur Achille Massoubodji, vous êtes un chercheur particulièrement actif à l'université d'Abomey Calavi. Vous avez été l'un des artisans de l'élimination du ver de Guinée, notamment au Bénin, membre de plusieurs comités d'éthique. Vous travaillez, je crois, actuellement à un vaccin contre le paludisme de la femme enceinte. On peut dire que vous êtes, vous aussi, au Bénin, l'héritier du professeur Ogo. Même combat, même engagement.
Même combat, même engagement, oui. Merci de le rappeler. Je voudrais, moi aussi, un peu comme le professeur Oumar Gaye, préciser que je ne suis plus responsable de la parasitologie à l'université d'Abomey Calavi. J'ai été admis à faire valoir mes droits à une pension de retraite il y a quelques années. Et c'est Dorothée Kindé autour de cette table, qui a pris ma succession à la direction.
Alors rendons à César et rendons à Dorothée ce qui est à Dorothée, chef du service donc de parasitologie.
En revanche, je dirige toujours le centre de recherche sur le paludisme associé à la grossesse et à l'enfance. Je dirige l'Institut de recherche clinique du Bénin.
Qui est un des combats du professeur Gobarado?
Tout à fait. Alors, c'est assez curieux et paradoxal, mais bon, j'assume que j'hérite de mon petit frère.
Et oui, c'est ça.
C'est inhabituel, c'est parfois douloureux, mais bon, c'est la vie qui fait les choses comme ça. Donc oui, Ogo, je retiens de lui d'abord que c'est un Africain. C'est un Malien, c'est un Dogon, un Africain profondément attaché aux valeurs de l'Afrique, aux valeurs de nos traditions. Et c'est peut-être ça qui a été le fil conducteur de sa vie.
Étonnant aussi pour un effectivement fils de paysan, d'Ogon, dans un petit village du Mali, d'être aujourd'hui célébré, honoré, commémoré, malheureusement, tristement, parce qu'il a disparu, mais pas seulement, de son vivant, célébré jusqu'à l'Académie des sciences, jusqu'à New York, partout.
Et il doit rester un exemple pour nos jeunes.
Parce qu'il travaillait au Mali, à Bamako.
C'est en restant fidèle à nos valeurs, à nos défis, c'est en restant nous-mêmes que nous serons perçus comme nous sommes. Pour qui nous sommes. C'est aussi ça, Ogo. Ogo, c'était le scientifique, c'était le petit frère. Il avait coutume de m'appeler toujours grand frère. Omar a le vilain défaut de le suivre dans cette appellation, me
dire grand frère, etc. On va faire pareil, hein, grand frère, alors.
Mais Ogo, c'était un médecin brillant. C'était une intelligence exceptionnelle, mais qui est restée le médecin de brousse qu'il a été dès le départ, tout en devenant un chercheur remarquable, tout en devenant un scientifique de très haut niveau, tout en devenant un formateur de beaucoup d'autres talents. Et ça, c'est peut-être ça ce qu'il faut à l'Afrique désormais. Et c'est vrai qu'il a résisté à beaucoup de tentations. L'OMS, l'UNICEF, d'autres organisations, d'autres structures qui appellent... Mais je crois que c'est important qu'on sache qu'on réussira à relever nos défis qu'en faisant comme Ogo, en travaillant, en mettant en place, avec l'aide de beaucoup d'autres certes, mais en mettant en place les conditions d'une bonne recherche, d'une bonne médecine. Personne ne le fera à notre place. Et les jeunes aujourd'hui doivent savoir que l'avenir n'est pas dans les postes politiques, elle est dans le travail, dans la recherche, dans l'effort au service du vrai développement, c'est-à-dire le développement de nos pays depuis la base, depuis le village.
Je vous propose justement de nous arrêter, d'aller à la base, à la source, à la racine, dans les villages, pour comprendre exactement la démarche du professeur Ogo Baradumbo. Je vous propose de l'écouter dans un autre extrait du portrait filmé du professeur Ogo, réalisé par Bernard Surugue, à partir des archives de l'IRD, portrait filmé qui sera diffusé demain, lors de cet hommage et de ce colloque à l'Académie des sciences.
J'utilise la recherche comme une porte d'entrée au développement. C'est pour ça que je développe l'ensemble de mes essais cliniques que je fais avec le NIH, avec l'Institut Pasteur, avec l'armée américaine, avec l'industrie pharmaceutique dans les villages pour adresser le problème du paludisme dans une approche globale. Donc nous mettons en place dans les villages l'ensemble des structures de recherche, les laboratoires, les sites cliniques, l'eau, l'électricité, la connexion Internet. Et pour moi, c'est ça le développement que je peux amener dans un village. Au bout de 5-10 ans, 100% des enfants sont scolarisés. Dans les 10 villages où je suis présent avec mon équipe, après 2 ans de présence, le système de santé est amélioré, que ce soit le système de soins ou le système de prévention. Il n'y a pas de décès d'enfants dus au paludisme ou des diarrhées. C'est évident. Donc c'est cet impact qui m'intéresse, en parallèle avec mes activités de recherche. Quand j'ai dit aux villageois que je fais ça, je le fais. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Il ne faut pas mentir au village.
Il ne faut pas mentir aux villageois, c'est aussi une des sources, un des piliers hein, du travail, de la recherche et de l'exemplarité du professeur Ogbobara Dumbo. Et puis c'est aussi à la source de ses succès, parce qu'il y a vraiment des succès pratiques sur le terrain. Il souhaitait, il rêvait, c'est un grand optimiste, d'éradiquer le paludisme, en tout cas dans les villages où il a travaillé, où il a installé l'eau, l'électricité, Internet. Effectivement, les enfants ne meurent plus du paludisme. Qui veut réagir à ce que vous venez d'entendre, professeur Guy?
Oui, je pense qu'il a parfaitement raison. D'abord, il y a le savoir local. Si on veut nous améliorer, nous scientifiques, améliorer un peu nos connaissances, il ne faut pas oublier également qu'il y a un savoir local extrêmement important. Et le fait de développer ces recherches au niveau des villages nous donne cette double opportunité. Premièrement, de puiser dans le savoir local pour améliorer ce que nous faisons, et aussi avoir cette confiance auprès des villageois. Parce que sans eux, effectivement, nous ne pouvons pas aller loin. Ils nous font des facilités, ils acceptent de participer à nos essais cliniques, évidemment, en mettant en place toutes les procédures éthiques, et ils nous supportent dans notre combat quotidien. Et ce que nous leur devons plus tard, une fois que nous avons conduit à bien nos recherches, c'est qu'il y ait un impact sur leur mieux-être, sur leur bien-être, l'amélioration de leur santé. Je pense que Hugo, très tôt, a eu cette vision. Et cette vision également que nous avons tous partagée, nous les professeurs de parasitologie au niveau du continent. Et c'est le vrai combat, l'amélioration de la santé des populations. Et ne jamais oublier qu'ils ont encore un grand potentiel sur lequel on peut puiser pour améliorer notre propre science.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre. La science et les savoirs traditionnels, au contraire, peuvent se nourrir les uns des autres et peuvent aussi nourrir, pour le coup, l'originalité de la recherche au sud et sur le continent africain. Achille,
Achille Massipoïdou. Oui, c'est vrai, il a dit une chose importante, il ne faut pas mentir aux villageois. Et dans ce contexte, il n'y a pas de mensonge vertueux. Souvent, par facilité, on estime que le villageois ne peut pas comprendre, c'est très complexe, etc. Et alors, on prend des raccourcis et on finit par lui mentir. Et le villageois est très sensible à cela parce qu'en fait, il n'est pas bête. Ils ont compris un certain nombre de choses parfois bien avant nous. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'il leur faut. Et nous devons apprendre à les écouter, nous devons apprendre aussi à leur parler. Apprendre la patience de leur expliquer. Ils comprennent toujours quand on prend le temps de leur expliquer. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on est pressé, on veut régler notre problème et pas celui des villageois. Et je crois que c'est important que ce dialogue entre le village et le chercheur se mette en place, parce que c'est ça qui va nourrir la recherche.
C'est la vraie question de la science aujourd'hui. Partout, on peut presque prendre exemple là-dessus sur le professeur Hugo, sur le lien entre la science et la population, que ça revienne, que ça retourne à la population.
Oui, une science pour elle-même ne sert à rien et n'est pas utile. Mais une science qui résout les problèmes de la population, ce qui suppose qu'on les écoute, cette science-là, quand elle avance, elle peut parler aux villageois, elle peut parler aux décideurs.
C'est ça.
Aussi. Parce que c'est un dialogue entre villageois et chercheurs, mais aussi entre chercheurs et décideurs. Il faut que cet ensemble-là participe à résoudre le problème du développement, vraiment. On ne peut pas faire le bonheur des gens sans eux, c'est fou. Ils sont capables de leur bonheur, et en fait, nous contribuons à faire leur bonheur, mais nous ne faisons pas leur bonheur. C'est ce respect du monde paysan qui animait Hugo, qui est quelque chose de fondamental dans sa démarche.
Tout en préservant l'excellence de la recherche, enfin l'excellence vraiment, c'est-à-dire qu'il tenait vraiment les deux bouts de la chaîne, Dorothée Kindé-Gazard. C'est ça aussi qui est exemplaire dans son parcours de vie de chercheur d'homme, tout simplement.
Oui, bien sûr, et je voudrais compléter ce que disait Achille en précisant que pour Hugo, la recherche doit avoir un impact. Donc, servir directement les communautés et les populations. De ce point de vue, je pourrais dire que Hugo est un modèle pour nous chercheurs, mais également pour les politiques.
Absolument.
Parce qu'il faut que les politiques résolvent les problèmes des populations. Nous avons choisi la médecine et nous essayons, tant bien que mal, d'apporter des réponses aux préoccupations réelles des citoyens, aux populations, aux préoccupations des populations.
Vous avez choisi la médecine et la recherche et vous avez choisi de la pratiquer sur le continent, chez vous, quelles que soient les conditions.
Parce qu'il faut apporter des résultats. Et nous pensons qu'un certain nombre de résultats est à notre portée si nous nous engageons vraiment et si nous disons la vérité et si nos actions sont vraiment véridiques. Comme il a dit, il ne faut pas mentir aux populations. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce dont ils ont besoin et nous devons, par notre science, les accompagner et trouver des solutions.
Ensemble.
Apporter des résultats ensemble.
Ensemble, avec eux, oui. Avec le Nord, avec le Sud. Autour de la question, comment rendre hommage au professeur Hogo Baradumbo et à son engagement sur le terrain, on l'a compris, dans la lutte contre le paludisme et les maladies parasitaires. On écoute des musiciens engagés eux aussi. Salim Jah Peter, qui a convié Cheikh Tidiane Seck sur son dernier album pour dénoncer le fléau du paludisme. Le morceau s'appelle Soboro. Salim Jah Peter et Cheikh Tidiane Seck sur RFI, musiciens engagés dans la lutte contre le paludisme. Autour de la question, comment rendre hommage au professeur Hogo Baradumbo, médecin, chercheur, parasitologue internationalement reconnu pour ses travaux et son engagement sur le terrain contre le paludisme et les maladies parasitaires, auquel l'Académie des sciences à Paris rend hommage. Nous sommes en compagnie des chercheurs et chercheuses qui poursuivent son œuvre et ses recherches d'excellence en lien avec les populations sur le continent. Les parasitologues Dorothée Kindé-Gazar, Oumar Gaï et Achille Massoubodji, avant de retrouver par téléphone une autre brillante chercheuse du continent que le professeur Hogo a formée, Francine Toumi, présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche. Je vous propose d'écouter la voix, le professeur Hogo, toujours extrait du film Portrait qui sera présenté demain à l'Académie des sciences à Paris.
Le fait d'amener une masse critique de femmes à la recherche, c'est ce que nous faisons actuellement. Les 8 sur 12 PhD que j'ai actuellement, ce sont des jeunes filles et qui sont des brillantes. Et c'est elles, je pense, qui vont porter plus tard l'avenir de ce pays en apportant les solutions par leur créativité et leurs compétences sans complexe. Je vous remercie.
Parmi toutes ces brillantes chercheuses, il y a bien sûr Francine Toumi, la première leader africaine de l'initiative mondiale contre le paludisme, qui n'arrivera que ce soir à Paris pour ce colloque hommage au professeur Hogo Baradumbo. Nous avons joint par téléphone cette grande dame, cette petite sœur du professeur Hogo. Francine Toumi dirige aujourd'hui le laboratoire de biologie moléculaire et le centre de recherche sur les maladies infectieuses de la cité scientifique à Brazzaville. Elle poursuit les recherches initiées par le professeur Hogo sur le traitement préventif intermittent contre le paludisme chez les enfants et les femmes enceintes. On écoute Francine Toumi.
Alors, J'aurais envie de lui rendre hommage d'abord pour ce qu'il a fait déjà évidemment en tant que leader et justement en pensant à lui ces derniers temps, le mot en anglais capacity building, le renforcement des capacités, donner le leadership aux Africains, bah, dans mon souvenir c'est lui que j'ai vu porter ce flambeau et en 1997 je crois c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré pour la première fois et justement c'était comment faire que les scientifiques africains prennent vraiment la responsabilité de la recherche sur le paludisme, la faire avancer main dans la main avec les scientifiques du Nord. Et donc c'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques africains sont investigateurs principaux dans des projets, ont le leadership de leurs idées. Et je crois que bon, il a vraiment mené ce combat-là.
Et vous-même, Francine Toumi, aujourd'hui, finalement, on peut dire que vous poursuivez et ces recherches et ce combat-là en travaillant sur les traitements préventifs contre le paludisme en Afrique chez les enfants et les femmes enceintes. Vous poursuivez finalement et ces recherches et ces travaux et sa démarche.
Absolument, non, sa démarche, je la partage encore complètement, évidemment, à savoir former. C'est ça, c'était son credo, former les chercheurs africains, qu'ils aillent apprendre et qu'ils rentrent au pays travailler. Donc il était très content de mon parcours et il m'a toujours encouragée, il m'appelait petite sœur et il m'a toujours encouragée et en disant « c'est pas grave si l'Afrique centrale aujourd'hui n'est pas leader, mais tu dois montrer le chemin ». Et donc, absolument. Donc, ses travaux, il a été impliqué dans le vaccin, dans la recherche du vaccin, le traitement préventif intermittent chez l'enfant. C'est grâce à lui, cette méthode de prévention a été adoptée par l'OMS et déployée dans la zone sahélienne. Bon, moi, je travaille maintenant aussi sur la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Donc, ce sont les deux combats. La recherche, oui, mais surtout la formation et renforcer le pool de chercheurs africains qui répondent aux besoins, s'adapter, voilà, apprendre à l'extérieur et adapter à la situation locale pour avoir un meilleur impact. Voilà, un de ces mots, c'était l'impact. Chercher l'impact de la recherche localement.
Francine Toumi, depuis Brazzaville, qui sera présente elle aussi pour cet hommage demain au professeur Ogbonna Dumbo à l'Académie des sciences à Paris, à la Fondation Simone Echino del Duca. Son intervention portera principalement sur le traitement préventif intermittent contre le paludisme en Afrique chez les enfants et les femmes enceintes, succès et doutes. Elle a repris votre mot, hein, l'impact, qui était le mot du professeur Ogo Dorothée, l'impact sur la population. Il faut dire que le professeur Ogbonna Dumbo a remporté des succès, c'est-à-dire que chez les enfants, chez les femmes enceintes, dans cette lutte contre le paludisme, il y a vraiment eu des succès. Un de ces succès, c'est aussi d'avoir prouvé l'efficacité des moustiquaires imprégnés. Et tout ça, c'est grâce à des recherches d'excellence, financées, qu'il a réussi à faire financer internationalement, mais qui a fait des démonstrations, des applications sur le terrain.
Exactement. Nous avons des applications sur le terrain et nous avons des résultats. Aujourd'hui, en parlant des zones où le paludisme est en train de disparaître, je pense que ce sont toutes ces stratégies mises ensemble qui ont permis de faire reculer le paludisme dans certains endroits. Nous ne sommes pas encore à l'étape d'éradication du paludisme, mais il y a eu beaucoup de recul, beaucoup d'avancées. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays, les enfants ne meurent plus du paludisme comme dans les années 2000 où nous avions lancé l'initiative d'Abuja.
Il faut dire aussi qu'un des talents, si j'ose dire, hein, il y en avait beaucoup, du professeur Ogbonna Dumbo, c'est d'être arrivé aussi à convaincre, à porter le fait que les maladies parasitaires, le paludisme, ces maladies négligées, ce sont l'affaire de tous et c'est une question de solidarité internationale et d'équité. Ça aussi, c'est-à-dire qu'il savait parler aux paysans, mais il savait parler et aux dirigeants et aux grandes instances et faire passer ça, Achille Massougouli.
C'est vrai que c'est une particularité d'Ogo, ça. D'être capable de donner la main aux autres et de travailler ensemble avec eux. et quels qu'ils soient, et qu'il s'agisse des décideurs, qu'il s'agisse des politiques, etc. Et Hugo avait une capacité à convaincre tout à fait exceptionnelle. Il avait un sens du plaidoyer qui était remarquable. Il savait, à partir des réalités concrètes de l'environnement, du milieu où il se trouvait, trouver les éléments qui, qui lui permettaient de convaincre son interlocuteur de la nécessité d'aller dans le bon sens, d'aller dans le sens qu'il il était ouvert aux autres. Et il savait s'ouvrir aux autres aussi, c'est ça le problème.
Et moi je reviens aussi sur son origine, qu'il revendiquait, Ambrouse, de petit paysan, fils de paysan malien, Dogon, et qui savait parler à tout le monde. Enfin, il parlait à Bill et Melinda Gates pour avoir l'argent de la fondation pour mener les recherches les plus pointues, d'excellence. Il savait parler à tout le monde, vous dites, il savait convaincre tout le monde.
Parce que tout le monde avait la même importance pour lui.
Ah, c'est ça.
Que vous soyez riche ou pas, c'est pas ça qui était important. Okay. Vous étiez quelqu'un, vous étiez un interlocuteur, une personne en face de lui, donc vous aviez vous portiez des valeurs. Mm-hmm. Et ces valeurs, il pouvait les partager, il voulait les partager.
Et c'est à ça qu'il s'adressait.
C'est à cela son souci.
Et je voudrais ajouter aussi qu'en dehors de la parasitologie, n'oublions pas que Hugo est socio-anthropologue. Donc, il a fait des études de socio-anthropologie, ce qui favorise le contact avec les autres et avec la communauté également.
Clairement. Et puis, Oumar Gaye, il était aussi très concerné par toutes les questions éthiques. Hein, vous l'avez abordé aussi. C'est-à-dire que peut-être que les recherches, même sur le terrain, ne sont pas menées de la même manière quand c'est mené par le professeur Hugo, quand c'est mené par d'autres chercheurs, notamment venus du Nord. C'est pas la même approche.
Tout à fait. Je pense que sur ce point précis, Hugo nous a beaucoup appris, nous autres. Hein. Donc, toute cette problématique de la recherche en insistant sur l'aspect éthique, je pense que c'était un peu également un de ses porte-étendards. Il nous a aussi transmis cet élément extrêmement important de mettre l'éthique au-dessus de tout. Ça a été son combat régulier. Je pense qu'il avait parfaitement raison. Il a raison. Parce que ce sont des recherches que nous menons sur le terrain. Nous avons besoin de ces cliniques. Nous avons besoin également de l'accord des populations pour mener ces recherches. Mais il ne faudra pas oublier que nous nous adressons à des populations, à des responsables. Et la considération éthique est extrêmement centrale si on veut mener des recherches de qualité. Et ça, Hugo Barral l'avait très bien compris.
Moi, je me demande comment... Achille ?
Je voudrais préciser que pour Hugo, l'éthique n'était pas seulement un outil. C'était quelque chose de beaucoup plus central. Mm-hmm. Et il considérait que l'Afrique avait des valeurs éthiques à partager avec le reste du monde. Et qu'il ne s'agissait pas pour nous, en Afrique, d'ingurgiter, d'adopter les valeurs des autres, mais il fallait enrichir le débat éthique. Et ça, il l'a très bien compris. Un certain nombre de choses qui paraissent extrêmement centrales et importantes pour l'Occident ne l'étaient pas forcément pour nous. Nous avons beaucoup discuté lorsque j'étais au Comité international de bioéthique de l'UNESCO d'un certain nombre de choses. Et Hugo me faisait remarquer que l'écrit est quelque chose de fondamental dans notre pratique. Parce que quand vous avez obtenu le consentement de quelqu'un, il faut que ce soit écrit. Mais l'écrit, c'est aussi... un vécu pour nos populations. Il m'a dit, tu sais, on leur fait signer
un consentement
éclairé et puis on leur dit de signer. Ouais. Mais que représente la signature pour ces gens-là ? Ouais. À l'époque coloniale, lorsqu'ils signaient, ils rentraient dans le système, j'allais dire, officiel, donc on pouvait... Ils payaient des impôts, on venait chercher l'impôt. On pouvait les réquisitionner pour les travaux forcés.
Ça pouvait être négatif, finalement.
Ça pouvait être négatif.
Ça ne leur revenait pas.
C'est ça. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est des valeurs éthiques qu'on leur impose. Il faut écouter la population pour comprendre quelle perception ils ont de cette éthique-là et quelles sont leurs valeurs à eux aussi. Parce que dans nos populations, chez nos populations, il y a aussi un certain nombre de valeurs qu'on peut partager avec le reste du monde. Et Hugo tenait beaucoup à ce que l'Afrique soit présente dans le débat sur l'éthique, dans la pratique de la recherche médicale.
Mais c'est fondamental, mais on se demande, moi je me demande comment il pouvait fonctionner, parce que finalement on a l'impression qu'il devait se battre sur tous les terrains, en même temps, à tous les niveaux, et tout en restant ben, ce qu'il est, ce qu'il était, enfin ce qu'il incarne, c'est-à-dire une conscience, une ouverture, un certain recul aussi sur... comme... Et puis il était aussi entre tous les mondes, moi j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment un des plus éminents chercheurs de la planète, et voilà, enfin, il était vraiment entre tous les mondes, entre le nord et le sud, entre... et tout était possible, il était comment? Il était combatif, engagé, pugnace, comment vous diriez ça?
Je pense que c'est un peu ça, les génies.
C'est ça,
je
génie.
Je pense que le professeur Gou, c'était un génie. Parmi tous nos aînés, et le professeur Massoubodji, il l'a dit tout à l'heure, c'est son petit frère, et pourtant, il a contribué à beaucoup de choses. Et je voudrais tout simplement dire que c'était notre petit génie, le professeur Gou, et un modèle pour nous tous.
Hommage. Un autre petit génie à tous. On continue de s'interroger sur le parcours de vie exemplaire de ce chercheur remarquable et remarqué, trop tôt disparu. Hommage à Ogbara Dumbo sur RFI avec le groupe malien Sangoy Blues, extrait de l'album Résistance. Et le morceau s'intitule « Alakou ».
Wala kurunya na wane na jere kame. Dala mainka na jere kame. Yerma yenda na kati. Yenda jere kame ko. Alaku poko chal kame.
Sangoy Blues sur RFI autour de la question comment rendre hommage au professeur Ogbara Dumbo à la veille du colloque qui lui est consacré à ce formidable chercheur, figure majeure internationalement reconnue de la lutte contre le paludisme et homme remarquable. Je vous propose d'écouter l'éclairage de celui qui dirige aujourd'hui à Bamako le MRTC, le Malaria Research and Training Center, fondé par le professeur Ogbara Dumbo avec l'entomologiste Yaya Touré. Comment poursuivre justement et développer cette plateforme d'excellence en Afrique subsaharienne? Réponse du professeur Abdoulaye Djimdé, qui n'a pas pu être en direct avec nous, mais que nous avons joint par téléphone à l'IRD à Marseille, où il assistait à la soutenance de thèse des étudiants maliens qui vont ensuite revenir mener leurs recherches au MRTC à Bamako.
Nous sommes en train d'exporter, si on peut le dire, l'expérience du Mali, de l'étendre à d'autres pays et aussi de travailler avec d'autres collègues africains. Donc, petit à petit, nous sommes en train de couvrir, de nous ouvrir et d'impliquer beaucoup plus d'équipes de recherche sur le continent. Nous sommes aussi dans la logique d'une diversification des travaux que nous faisons au niveau du centre. Ce travail avait déjà commencé avec notre maître 2 mois avant son décès. Nous avions déjà écrit les premiers brouillons de cette diversification et aussi en termes de pathologie que nous voulons couvrir, nous voulons aller au-delà du paludisme, au-delà des maladies parasitaires pour aller faire de la recherche de pointe dans les maladies infectieuses, les maladies émergentes. Et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs que je suis à Marseille où je viens d'écouter 6 étudiants en thèse. Personne n'a parlé de paludisme. On parle de nouvelles thématiques, de nouveaux pathogènes, d'archébactéries. Donc le centre avait a commencé déjà à se diversifier. Nous continuons d'approfondir cette diversification pour nous intéresser au-delà du paludisme à d'autres problèmes prioritaires de santé.
Et tout en alliant toujours dans cette plateforme d'excellence à la fois la recherche de pointe et en même temps le lien avec les villageois, avec les personnes concernées, c'est ça ?
Non seulement nous équipons un équipement, un matériel de pointe, mais nous travaillons sur des prélèvements qui sont pris dans les villages, qui sont pris chez des sujets humains, mais aussi dans le cadre de la recherche de pathologies émergentes chez des animaux, chez des rongeurs, et donc dans les fins fonds des campagnes africaines. C'est un peu ça une des originalités du travail de notre centre. Nous allions une proximité avec nos populations et avec la nature en Afrique, avec la technologie de pointe. Le professeur avait commencé une révision de l'ancrage institutionnel de son centre quelques mois avant son décès et nous lançons un appel pour que nos autorités du Mali puissent faire en sorte que cette érection du centre de recherche du professeur en un centre plus autonome soit une réalité afin que nous puissions atteindre les sommets qui sont les rêves que nous poursuivons.
Espérons que cet appel soit entendu par les autorités maliennes en particulier, par les autorités africaines en général, par aussi tous ceux qui soutiennent, par les fondations qui soutiennent, pour développer justement cette autonomie de la recherche et que ça puisse s'élargir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le paludisme, malheureusement, il y a d'autres maladies parasitaires, d'autres maladies émergentes. Vous tous, c'est aussi dans ce sens-là que vous travaillez, c'est-à-dire d'élargir, d'ouvrir cette recherche au professeur Omar Gaï.
Oui, tout à fait. Nous partageons le point de vue du professeur Djimdé. Le paludisme donc est en train de reculer, c'est sûr. Il y a de nouveaux pathogènes émergents. Et en tant que spécialiste et aussi scientifique tout court, nous devons adresser toute cette question. Évidemment, en nous ouvrant aux autres capacités et aux autres spécialistes. Je pense que cette voie a été tracée par Ogo. Ici, au niveau du continent africain, nous avons des initiatives en cours, notamment le programme Delta, qui est un programme pour développer un peu l'excellence dans la recherche et dans la formation en Afrique. Et l'objet, c'est de nous réunir en vaste réseau pour un peu amener nos jeunes scientifiques à être autonomes, à être indépendants, donc faire de la science sur le continent, mais en s'ouvrant également aux autres et adresser toutes les autres pathologies émergentes et actuelles. Je pense que par rapport à ça, c'est la vision de Ogo quelque part qui se continue à travers cette nouvelle initiative.
Quels sont les plus grands défis, Dorothée Kindé-Gazard, votre intervention au colloque autour des maladies parasitaires et en hommage au professeur Ogo Barabou-Doumbo demain, portera sur les maladies infectieuses au début du 21e siècle. Quels sont les défis aujourd'hui les plus énormes? Il y en a beaucoup. Hein.
L'un des tout premiers défis que j'entrevois, c'est la santé, nous disons désormais One Health, une seule et même santé, aussi bien la santé humaine que la santé animale, parce que la plupart des maladies émergentes que nous connaissons aujourd'hui sont dues à des micro-organismes que nous retrouvons chez les animaux.
Donc c'est ce concept One Health hein, qui parle à la fois des hommes et des animaux, mais aussi de tout le monde, d'interdépendance de nous tous.
Hein. Et de la globalité de la santé. Donc c'est
et où qu'on soit sur la planète, on est tous concernés.
Où qu'on soit sur la planète. Et aujourd'hui, on a tout fait de parler de village planétaire. Nous voyageons beaucoup. Mm-hmm. Il y a beaucoup de techniques de communication. Et paradoxalement, sur le plan de la biologie, nous avons de nouveaux outils, la biologie moléculaire, le séquençage des agents pathogènes. Tout cela apporte beaucoup dans le développement de la santé du monde, tout simplement. Et autre chose que je voudrais dire, Il est important que nous chercheurs, et en plus des décideurs, nous nous mettions ensemble parce que sans la santé, nous ne pouvons pas garantir un développement économique stable de nos pays, surtout de nos pays en développement.
Que vous soyez entendu, Dorothée. Professeur Achille Massou-Bodji, vous allez demain donc, à l'Académie des sciences, dans la Fondation Simone Echino del Duca, parler de l'éradication du paludisme, un défi pour l'an 2050. Le paludisme éradiqué, c'est une... Je sais que le professeur Obo était un optimiste invétéré et qu'il faut l'être et le rester. C'est une possibilité, une réalité.
Je dis du professeur Obo Barra en général que c'est un optimiste indécrottable.
Indécrottable, oui, c'est ça.
C'est ça ce qu'il faut dire. Et c'est vrai qu'il y croyait. Il avait cette
Mais
capacité.
Mais il portait tout le monde et tout grâce monde. À ça. Hein. Bah, oui.
Il avait cette capacité extraordinaire de refuser les barrières. Il pouvait toujours voir loin. Très loin, et il envisageait les solutions les plus improbables pour trouver. Et je crois que ça, c'est sa caractère, sa marque de fabrique. Je crois que si je ne suis pas tout à fait d'accord avec Obo, qu'en 2050 sera fait, c'est quand même lui qui a raison d'espérer que ça va être fait dans pas trop longtemps, quand même.
Et c'est comme ça que ça peut être fait, justement.
Et c'est comme ça que ça va être fait. Et je voudrais juste dire une chose. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre Abdoulaye Djimné parler tout à l'heure. C'est aussi ça, Hugo.
Il a formé
la relève, il a donné la main aux plus jeunes. Et aujourd'hui, je disais au dernier congrès de la Société africaine de parasitologie que... Ogo est pour moi comme une étoile qui ne s'éteindra pas. Parce que de toute façon, Ogo est peut-être parti, mais il y a Djimné.
Et Djimné poursuit son œuvre et nous sommes.
Et c'est
tous...
pas fini.
Et c'est pas fini.
Il y a Djimné, il y a Terra, qui est l'actuel recteur de leur université. Et il y a Madame Ogo. Madame Doumbo.
Madame Ogo.
Madame Doumbo, qui a été reçue au dernier concours d'agrégation.
Sa fille qui poursuit.
Son épouse.
Qui poursuit son œuvre, sa recherche
qui est aujourd'hui professeur de parasitologie, comme nous tous ici, et qui est dans la logique de la poursuite de ce travail-là. Et je crois que c'est important. Des gens, il y a de grandes valeurs qui vivent pour, j'allais dire, elles-mêmes, en ceci qu'après leur départ, on ressent un grand vide. Ogo a réussi l'exploit qu'après son départ, on sente qu'il est encore présent à travers toutes ces personnes-là.
Hommage au professeur Ogo Barra Doumbo, une étoile qui ne s'éteindra pas. Pour reprendre les propos du professeur Achille Massou-Bodji sur nos ondes en avril 2019, avec la professeure Dorothée Kindé-Gazard et le professeur Oumar Gaye, c'est à la veille de la journée d'hommage rendue au professeur Ogo Barra Doumbo à l'Académie des sciences à Paris. Les liens sur ce colloque et sur le portrait filmé du professeur Ogo, qui nous a d'ailleurs servi à illustrer cette émission, sont sur notre page. Rendez-vous demain, chers amis auditeurs et auditrices, pour réécouter une autre grande voix, trop tôt et tragiquement disparue, celle de la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmentel, autour de la puissance de la douceur. Sacré programme à partager avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci encore pour votre fidélité et votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver votre journal.